Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Elina Fronti autour du livre qu'elle a dirigé, Vivante, des femmes qui luttent en Amérique latine, paru aux éditions Dehors, le 17 février 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreuses ce soir. Alors ce soir, on présente le bouquin qui s'appelle Vivante, des femmes en lutte en Amérique latine. C'est paru aux éditions Dehors. Cet ouvrage a été coordonné et traduit par Elina Fronti, ici présente. Bonsoir. Donc Elina, tu as l'initiative de ce livre. Tu es basée au Mexique depuis 4 ans et tu as traduit différents récits donc, de femmes qui luttent en Amérique latine. En notre présence, Raiza Inocencio, bonsoir. Tu es artiste, performeuse brésilienne et tu fais partie d'un projet de solidarité internationale. Et tu interviens dans le livre, tu pourras nous parler éventuellement de ton récit et des luttes au Brésil. Et cette rencontre sera modérée par Olivia Tipanda, bonsoir. Tu es chercheuse indépendante en philosophie esthétique noire. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Bonne soirée.
Merci à toi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ok, parfait. Vivante, des femmes qui luttent en Amérique latine. Les textes du recueil de différents univers. On retrouve des textes académiques, des articles, des textes militants, artistiques, des manifestes, des textes engagés, des témoignages, des chants, des notes de performance. Selon toi, Elina, ce recueil a pour objectif de réunir et de faire entendre en langue française les paroles des femmes qui luttent et œuvrent depuis le continent latino-américain pour la liberté et pour la vie. On va commencer la première partie sur ton engagement sur le terrain et surtout, qu'est-ce qui a motivé ta volonté d'écrire. J'aimerais savoir aussi quelles sont les réflexions et les constats que en fait, tu perçois maintenant a priori, a posteriori. Pardon.
Bonsoir. Du coup, à l'initiative de ce livre, le constat, c'était un réel vide à combler quant à l'accès qu'on a et ici en France et en langue française de façon générale. Quant au mouvement féministe d'Amérique latine et au mouvement anti-capitaliste et anti-patriarcaux qu'il y a en Amérique latine et de façon générale les mouvements sociaux qui existent. Et cette sensation que dans la vision dominante qu'on a des problématiques globales et de la façon de les résoudre, on a très peu accès à tout ce qui s'y passe et tout ce qui s'y fait. Et donc, alors pourquoi l'Amérique latine, de par mon expérience personnelle, puisque j'ai passé du temps dans différents pays, ce qui m'a amené à rencontrer différentes personnes et à avoir connaissance de plusieurs mouvements, de plusieurs associations, de différentes luttes. Et parce que j'ai eu la chance aussi au cours de mes séjours de participer à un séminaire sur les questions d'action politique et de genre au Mexique, qui m'a vraiment ouvert des portes quant à la pluralité, à la diversité des mouvements qui existaient sur le continent, et où j'ai pris conscience de mon ignorance et du faible accès qu'on a de ces textes en France. Et donc, de là est venue la démarche de vouloir traduire, donc dans cette volonté de faire passer la voix dans ce rôle de donner accès, de traduire des textes et de les réunir. Donc, quand j'ai commencé ce projet, je me suis rendu compte aussi que c'était très ambitieux comme projet de vouloir réunir dans un livre les mouvements féministes latino-américains. Surtout que à mesure du processus, je me suis rendu compte que même le terme féministe, il était assez limitant, et on en parlera après. Donc du coup, c'est pour ça qu'on l'a défini comme mouvement de femmes qui luttent pour la liberté et pour la vie, ce qui permet d'englober d'autres luttes. Et donc voilà, ce livre pour moi c'est d'abord un échantillon, une porte d'entrée pour montrer une certaine pluralité, une certaine diversité, pour ouvrir à des concepts et à des nouvelles réflexions, parce que il me semble que tout ce que ces textes proposent, au-delà de se borner à un domaine théorique, qui nous permette de nous ouvrir à des nouveaux systèmes de pensée, des nouveaux systèmes de lutte, d'autres conceptions de la réalité, et qui sont aussi pour nous beaucoup d'outils pour avancer dans nos propres luttes situées. Voilà.
Merci. Et lorsque tu parles en fait d'ouvrir du coup à d'autres réalités, à d'autres pluralités, moi ce qui m'a marqué dans la lecture des textes, c'est vraiment le retour du mot écoféminisme. Et j'aimerais en fait savoir comment toi tu as pu te réapproprier ce concept-là, et surtout en fait comment tu as travaillé sur lui.
Ok. Alors ce terme-là, ça a été aussi sujet à beaucoup de réflexions pour moi, parce que je sais que quand on catégorise d'une certaine façon, on enferme un peu aussi. Mais il me semblait que pour pouvoir écrire un recueil, il faut des critères aussi pour sélectionner les textes. Et je me disais, quels vont être mes critères? Est-ce que je mets un texte par état-nation, ce qui n'a aucun sens, sachant qu'il y a certains féministes qui viennent qui viennent de femmes qui ne sont même pas reconnues au sein des états-nations, qui appartiennent à des communautés qui ne sont même pas reconnues. Comment je définis les critères? Et je trouvais dans le terme écoféministe, donc que moi j'entends comme d'abord une perspective holistique, et je le prends à partir d'une perspective, on va dire, française, en reprenant la définition de Françoise Daubonne, qui est le lien qui est fait entre le saccage de la nature et la domination des hommes sur les femmes comme fruit d'un même système idéologique. Et donc, à partir de ce prisme-là, réunir des textes. Donc, moi, ce que j'entendais par écoféministe, c'était surtout, avant tout, de remettre au centre la vie, cette lutte pour la vie. Et donc, voilà, c'est ça qui fait le lien entre les textes. Dans l'introduction du recueil, je précise quelque chose que je tiens à repréciser ici aussi, c'est que ce lien-là, sous ce terme-là d'écoféminisme, il est mien pour m'adresser à un public, on va dire, francophone, mais j'intègre dans ce recueil des textes qui, non seulement ne se revendiquent pas écoféministes, mais qui se revendiquent ne pas l'être, au sens où, et on en discutera aussi un peu plus tard, l'identification à ce terme-là, elle ne correspond pas à toutes les personnes qui sont en lutte sur le continent. Donc voilà, je ne sais pas si je répondais.
Oui, c'est ça. Parce que du coup, ça nous ramène à la question vraiment du monopole du langage. Et surtout le fait que, tu le dis même dans le recueil à un moment en commentaire, que tu t'es posé la question si finalement le mot féminisme même n'était pas aussi quelque chose qui encloisonnait en fait ces femmes-là dans une certaine vision et dans une certaine réalité qui ne les appartient pas. Et moi, du coup, j'aimerais savoir, toi, face à cette nouvelle réalité et à cette réappropriation du mot, sur quel questionnement ça t'a amené? Qu'est-ce que ça a changé, en fait, sur ce concept-là? Voilà.
Ok. D'abord, je pense que pour répondre à ça, je vais intégrer un autre terme un peu théorique. Du coup, donc le terme décolonial. Donc dans toute la perspective du bouquin et dans la démarche même du bouquin, il y avait cette idée aussi de
tu voulais dire un truc?
Ah bah ok. Il y avait cette idée aussi d'avoir un prisme décolonial, et donc de réfléchir à la hiérarchisation qu'on fait du savoir aussi, y compris au sein même des luttes, et des luttes contre un système oppressif. Et j'ai noté une petite phrase qui, moi, fait beaucoup sens pour moi, c'est que quand on intègre une perspective de féministe décoloniale, ça nous avertit qu'être femme ne nous met pas à l'abri d'occuper la place patriarcale de la domination. Et ça, c'était un peu le prisme central du bouquin, c'est-à-dire nous ouvrir, y compris au sein des luttes, à des d'abord à reconnaître que notre propre réflexion, elle est située, qu'elle vient de notre vécu et qu'il n'y a pas de... On ne peut pas avoir une déclaration universelle de comment sont les choses et comment elles doivent être, comment on doit lutter, quelle est la réalité générale des femmes, comme si c'était un tout englobant ce qu'est la femme. Et du coup, de pouvoir lutter à partir de la différence aussi, c'est-à-dire au sens où on intègre d'autres réalités, d'autres formes de lutte en reconnaissant qu'elles sont elles-mêmes situées. Elles viennent d'autres rapports au monde, d'autres rapports au corps, d'autres rapports à la terre. Pareil, je sais qu'on va développer ça un peu plus tard, mais d'autres rapports à la réalité de façon générale. Et donc, si on se base ici, moi, il me semble qu'on a parfois un rapport très, très dualiste aux choses, y compris, par exemple, le rapport humain-nature, qui ne correspond pas du tout à la perspective qu'ont certaines de ces luttes, pardon. Et donc, il y a plein de concepts féministes théoriques que j'avais intégrés qui ne collaient pas du tout avec les concepts qu'utilisent ces femmes pour décrire leur lutte. Il y a ça. Il y a aussi le fait que beaucoup de femmes, leur lutte, elle est très pratique et beaucoup moins théorique. Et que du coup, dans ce terme même de féminisme, il y a quelque chose qui leur renvoie à une oppression ou à quelque chose qui ne représente pas leur réalité, c'est-à-dire à des mots qui ne les représentent pas, à une conception de la réalité et de la lutte qui ne leur convient pas, et à tout un ensemble de termes qui ne leur conviennent pas. Et ça a été le gros travail pour moi aussi, c'est-à-dire, et qui est aussi très compliqué dans la traduction, c'est-à-dire d'abord dans le travail de traduction, il y a le fait de passer d'une langue à une autre qui est très complexe. Comme je te disais tout à l'heure, et je prends souvent cet exemple, moi qui parle couramment espagnol et pourtant qui suis, enfin ma langue natale c'est le français, je parle espagnol avec le cœur et je parle français avec la tête. Pour moi c'est une langue qui est très, je sais pas, il y a un truc hyper rationalisant. Je fais des détours théoriques pour expliquer des choses que j'arrive à expliquer très simplement en espagnol. Et donc dans la traduction, je t'ai donné cet exemple. Par exemple, il y avait une femme qui écrivait Corazonar con la tierra. Et corazon c'est le cœur et donc je sais pas si je le traduis en français. Faire cœur ou cœurer avec la terre. Et y a plein de termes comme ça qui font de suite sens quand je les entends en espagnol. Et pour trouver les détours français pour vraiment transmettre le sens, tu pourras en parler toi aussi, parce que tu as aussi ce rapport des langues et c'est compliqué. Et au-delà de ça, au-delà de la langue, le rapport aux termes, et où j'ai commencé à lire plein d'écrits qui remettaient en cause des termes qu'on utilise au quotidien. Par exemple, le terme même d'Amérique latine, que j'ai du coup quand même utilisé dans mon titre, et je peux expliquer après pourquoi, mais il y a des mouvements de femmes, il y a des communautés en Amérique latine qui n'utilisent pas le terme Amérique latine, qui est un terme qui a été décidé par les colons, et qui renvoie à cette colonisation, et qui, pour se réapproprier ce rapport à leur terre, utilise le terme Abiyala, donc qui est un terme qui vient d'une communauté qui vit au Panama et dans l'est de la Colombie. Et donc ce terme porte aussi en lui un ensemble de concepts et toute une capacité d'action et toute cette lutte contre-hégémonique. Comme je le disais tout à l'heure, le terme même de nature, qu'on utilise parfois, y compris dans les discours écologiques, notre rapport à l'environnement, aux ressources naturelles, etc. C'est des termes qui ne collent pas du tout avec la réalité de certaines communautés, de certaines personnes, pas que des femmes d'ailleurs, qui se considèrent comme part de la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un terme qui définit la nature comme un tout extérieur à nous-mêmes. Et à partir de là, voilà, quand on déconstruit tous ces termes, ça oblige à complètement changer de perspective et changer de discours, etc.
Donc, on pourrait dire qu'il y a une colonialité du langage, déjà.
Complètement.
Et ces femmes-là, à travers, du coup, leur lutte pratique, leur lutte militante, elles essaient aussi d'arracher, en fait, au monde cette vision-là qui les tue, qui réduisent en fait leur tradition et leurs propres mots au silence. Et j'aimerais savoir, du coup, est-ce que toi, tu as pu observer par rapport à l'éducation, par rapport à la transmission qu'on fait aux enfants, aux jeunes, toi aussi, Raïssa, est-ce que tu as pu observer, du coup, des populations qui essaient, du coup, de transmettre, en fait, ce qu'elles pensent de la Terre en essayant de ne pas avoir un rapport voilà, de colonial, un rapport occidental, un rapport, en fait, autre.
Bonsoir. C'est intéressant. Mais là, je vais profiter juste pour déjà rebondir et après penser la question de la transmission. Bon, la traduction, c'est une certaine forme de trahison parce que ce n'est pas exact. On essaye de communiquer. Et pour répondre à la question de transmission, je crois que l'initiative, c'est de faire des liens. C'est de faire des compréhensions, mais quand un enfant... Je vais donner les exemples un peu, mais quand un enfant est en train d'apprendre à parler, si les parents ou les personnes proches ou la communauté a déjà une conscience critique, elle va déjà éduquer avec un vocabulaire qui est aussi des prises de conscience d'un système d'oppression totalitaire. Je peux citer, par exemple, Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien des années 60, qui a rendu influence aussi à Bell Hooks, qui faisait un travail sur les vocabulaires, les choix des mots. Donc, c'est redonner la puissance des mots, comme déjà pas mal d'écoféministes parlent là-dessus. Mais pour les donner mon savoir situé, je peux parler des communautés des marronnages, les quilomboles, auxquelles les quilomboles sont des communautés des personnes esclavagisées qui fuissaient les plantations. Et dans les quilomboles, il y a tout. Il y a l'école, il y a les guérisseurs, c'est une communauté qui toute est autour de la communauté. Et l'autre exemple que je pensais vite fait, lié aussi au mouvement féministe, c'est le mouvement des paysans sans terre, le mouvement aimé à citer. Et là aussi, Paulo Freire, il a participé du mouvement des paysans sans terre. Donc l'enfant, quand il entre dans les communautés des plantations du mouvement sans terre, il apprend à planter, il apprend à respecter les personnes plus âgées. Enfin, j'ai dit des choses peut-être un peu bêtes, mais qui, quand on est enfant, il faut apprendre aussi à dire bonjour et être à l'aise. Mais je pense que la question qui est autour, c'est comment on transmet la pratique et en même temps, comment on fait une façon que les savoirs soient aussi dans un livre, par exemple. Même que on était en train de papoter, je disais, mais nous, au Brésil, on lutte pour prendre l'État, prendre le pouvoir d'État et pouvoir faire l'institution non fasciste. Et en Europe, on a l'impression qu'ici, l'institution, il faut réhumaniser. Donc, il y a certainement des différences entre les deux mouvements. Après, à l'Amérique latine, c'est vraiment... il y a plusieurs pays, mais juste pour finir mon commentaire, sur la question des noms, j'aime bien la notion d'une historienne brésilienne qui s'appelle Lélia Gonzalez, qui elle a dit que, en fait, c'est pas l'Amérique latine, c'est la Améfrique. Améfrique latine. Ça veut dire c'est vient d'Afrique, et aussi de ladine, c'est les côtés indiens des Indes. Donc, je pense que la création des mots, ça peut permettre aussi à faire à nouveau la question du vocabulaire. Je ne sais pas si j'ai rebondi là-dessus.
C'est très bien, merci. Et du coup, je voulais continuer à parler de la Terre et surtout du rapport au corps, parce que c'est la Terre qui nous nourrit. Vivas, elles sont vivantes. Viva, elle est vivante. La terre communique comme le corps qu'elle nourrit. Elle est étouffée comme le corps brimé. on veut la posséder, on veut le contrôler. Et là, j'aimerais du coup poser toutes les deux la question de ces problématiques du coup issues de la colonisation auxquelles fait face les nombreux pays colonisés. Les continents aussi, que ce soit du coup l'Asie, l'Afrique ou les Amériques. Et comment en fait on peut se réapproprier une terre dans la lutte quand cette terre-là est utilisée pour nous rendre malades aussi, quand cette terre-là est utilisée contre nous. Et quand cette terre-là, en fait, elle est juste empoisonnée.
Je peux donner mon exemple parce que, en fait, moi, j'ai participé du projet des Santé Patacho comme militante et avec un peuple Patacho. Et juste pour donner un peu les contextes, les peuples Patacho, c'est au sud des Bahiens. Et c'est les premiers peuples autochtones qui ont pris contact avec les Portugais, quand les Portugais sont arrivés. Et moi, je me posais plusieurs questions. Comment je vais parler des choses administratives, tout en savant qu'il faut préserver ces modes de vie non caficoniens, administrativement parlant. Et au bout d'un moment, en fait... Déjà, c'était Bolsonaro, le gouvernement Bolsonaro. Donc, du coup, on était tous un peu désespérés. On s'y foutait un peu des questions anthropologiques parce qu'il faudrait faire quelque chose. Donc, cette émergence d'une situation grave, d'une situation politique grave. On voit en Amazonie ce qui s'y passe en ce moment avec les peuples Yanomami. Et à nouveau, j'ai pensé de plusieurs manières de faire en fait que mon corps soit là et que les peuples Patacho avaient aussi les connaissances de droit. Mais après, je pense que ça, c'est un exemple que j'ai pensé sur la question du corps parce que quand on parle de donner l'accès au droit, c'est aussi donner l'accès au savoir. Et voilà, c'était ma question de comment je pensais donner l'accès au droit pour eux. Après, de mon opinion personnelle, mon travail avec les bains, que je pense qu'on va parler après, c'est une réponse tout de suite de comment on peut associer les corps personnellement à ces mouvements. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, parce que je pensais au patachon.
Oui, tu as bien répondu.
Mais, justement, c'est parfait, parce que on a parlé du rapport aux terres, et tu as parlé du corps, et s'il y a bien un concept que je trouve très intéressant et qui est hyper propre, y compris théoriquement au mouvement féministe et au mouvement en général des femmes qui luttent en Amérique latine, c'est le concept de corps-territoire. Et justement, parce qu'il y a un rapport... très particulier au lien terre-corps-territoire dans les luttes. Et c'est aussi lié, et on n'en a pas trop parlé, mais tu viens de le dire, à l'histoire du continent, donc à l'histoire coloniale, mais aussi à l'histoire actuelle, en fait, où c'est des terres qui sont sans cesse violées, qui sont sans cesse... Il y a tout le temps... je n'ai pas le terme si c'est extraction minière ou extractivisme en français, mais ouais... Et il y a l'eau qui est sans cesse privatisée. Il y a des communautés entières qui sont complètement bouleversées parce que leurs terres sont occupées. Et les dommages, ils sont énormes. Ils sont autant psychosociaux, ils sont autant pour la communauté. Et en fait, ces dommages, du fait de la position historique des femmes dans ces communautés, ils les touchent directement. Et je peux même parler très concrètement de comment ils affectent leur corps. Par le mercure dans les os, ça peut être de taches sur la peau, d'infections vaginales, de quand on cuisine la nourriture, de l'eau qui est bue, enfin, à tous les aspects de la vie pratique et quotidienne, il y a des conséquences directes, en fait. Et d'où le fait, encore une fois, que ce rapport corps-territoire, il est directement lié à la lutte et que la lutte, elle est très pratique. Et donc ça, et aussi parce que, en fait, c'est ça nous invite aussi à reconsidérer la notion même de territoire telle que nous on la conçoit, qu'on peut concevoir comme, je sais pas exactement quelle est la définition, je sais pas en géographie, bon. Mais il y a un peu ce truc de territoire, espace d'échange économique et sociaux, j'en sais rien, je sais pas comment on dit, mais reconsidérer aussi cette notion avec d'autres cosmovisions où le territoire, c'est aussi une possibilité d'être, une possibilité de faire et une possibilité d'exister et aussi un espace interrelationnel dans lequel notre corps humain est en relation permanente avec tous les éléments. Et aussi reconsidérer notre propre corps qui est le premier territoire auquel on a accès, en fait. Et en fait, je pense que ce n'est pas juste des concepts, parce qu'à partir du moment où on change ce rapport-là à notre propre corps, ça change notre rapport au monde aussi, en fait. Du coup, donc c'est ça. Je pense que dans cette réappropriation des territoires, elle passe beaucoup par une réappropriation du corps. Voilà, donc je pense que ça faisait hyper sens, en fait, que tu parles de ça. Et je ne sais pas si tu avais poser une autre question.
Non, je voulais juste ajouter un petit commentaire et après, on passe à la lecture. Ouais, je voulais dire que on voit en fait que depuis le début, les textes qu'on essaie de vous lire, de vous présenter, que vous entendez, la question aussi principale, c'est d'abord la question politique. Parce que voilà, politique, c'est pas juste aller voter. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans le territoire, dans la terre dans laquelle on vit, comment certaines personnes ne peuvent pas juste exister, en fait, n'ont pas le droit d'être là, comment leur présence dérange. Et du coup, on se rend très bien compte que finalement, à part peut-être des problèmes liés à l'économie, au social, tout ça, il y a une guerre, en fait, qui est en train de se passer. Et une guerre qui a toujours été là. Et c'est vrai qu'en Occident, en Europe, on la sent de manière très différente, surtout très lointaine physiquement. Mais dans ces territoires qui ont été colonisés, c'est très concret. Et on voit que... moi, j'ai beaucoup aimé le fait que la dernière partie s'appelle... la troisième partie, du coup, du recueil se nomme corporalité, territorialité et institution. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a des États-nations qui sont mis en place, capitalistes, patriarcaux, sexistes, avec tous les xmes que vous connaissez, ça amène à cette situation de violence ontologique. Vraiment, quelque chose qui est désastreux, autant pour les personnes qui vivent dans ces territoires-là que pour nous. Parce que, voilà, on ne le rappellera pas assez, on est dans le même monde.
Je voulais rajouter un truc par rapport à ce que tu viens de dire. Que par rapport à ça, je pensais, j'avais pris des notes parce qu'il y a pas longtemps, j'écoutais une conférence de Maristela Svampa, donc qui est argentine, philosophe, et elle parlait justement de la situation globale actuelle et de la crise écosociale actuelle, et avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie et ce que ça impliquait mondialement. Et en fait, elle expliquait qu'avec la pandémie, il y a eu une conjoncture extraordinaire, qui est extraordinaire, et que, j'ai pris mes petites notes, et que du coup, la crise qui est liée, elle a ouvert à des opportunités de changement et de discussion autour de l'urgence d'une transition écosociale globale. Et en fait, elle explique justement que les perspectives, on voit qu'elles sont complètement différentes, et il y a vraiment une rupture nord-global, sud-global, on va dire, où les pays dits du Nord, leur transition, elle est surtout pensée de façon énergétique, donc pensée à une transition énergétique qui est au centre de la notion de progrès par rapport à ce qui se passe. Là où, dans les pays dits du Sud, ça passe beaucoup moins par une réponse gouvernementale, institutionnelle, mais beaucoup plus par la société civile, et où il y a vraiment... Une transition beaucoup plus intégrale qui est pensée au niveau social, au niveau écologique, et aussi parce que justement elle expliquait que dans cette transition verte, ou aussi avec la guerre en Ukraine et tout ce que ça impliquait mondialement avec cette recherche de nouvelles énergies pour l'Europe, en fait il y a une accélération justement de l'extractivisme dans ces pays-là, et dont on ne parle pas, en fait on ne voit pas ces conséquences-là qui sont toujours vécues au quotidien. Et voilà. Et d'où aussi l'intérêt de toutes les propositions et des nouvelles narrations que proposent ces mouvements qui offrent d'autres prismes et qui sont de réelles solutions pour penser une transition juste et penser globalement avec toutes les perspectives incluses. Voilà.
Y compris par rapport à la question du quotidien, parce que, par exemple, les rêves dans les communautés amérindiennes, je sais qu'on parle de mouvements, mais les communautés amérindiennes, les rêves, il est très important pour la communauté. C'est-à-dire, si une personne... en fait, c'est comme si tout le monde est potentiellement un psychanalyste, pour faire une traduction des termes. Mais c'est ça, c'est d'autres modes de vie qui s'ajoutent à ces modes de vie institutionnels, par exemple dans mon cas brésilien.
On parlait d'institutions, on parlait de lutte, et j'aimerais qu'on lise un passage du discours des femmes zapatistes du 8 mars 2018. Elles ont fait du coup un appel international. C'était des journées de lutte, de parole ouverte en non-mixité, avec voilà, toutes les personnes qui se définissent comme femmes.
Donc du coup, je vais lire un passage de leur discours de présentation. Ici sont présentes des femmes de nombreuses parties du monde. Il y a des femmes qui ont fait de longues études, qui sont docteurs, qui ont une licence, qui sont ingénieurs, scientifiques, professeurs, étudiantes, artistes, dirigeantes. Bon, nous n'avons pas fait beaucoup d'études. Certaines d'entre nous parlent tout juste espagnol. Nous vivons dans ces montagnes, les montagnes du sud-est mexicain. Nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous luttons ici, nous mourons ici. Et nous voyons par exemple que ces arbres qui sont là, vous les appelez forêts, et nous les appelons montagnes. Bon, mais nous savons que dans cette forêt, dans cette montagne, il y a plein d'arbres différents. Et nous savons qu'il y a par exemple des ocotes ou des pins, il y a des coabas, des cèdres, il y a des baïaltes et de nombreux types d'arbres. Mais nous savons aussi que chaque pin ou ocote n'est pas pareil, mais plutôt que chacun d'entre eux est différent. Nous le savons, oui, mais en voyant tout ça, on dit que c'est une forêt ou une montagne. Ici, nous sommes comme une forêt ou comme une montagne. Nous sommes toutes femmes. Mais nous savons qu'il y en a de différentes couleurs, tailles, langues, cultures, professions, pensées et formes de lutte. Mais nous disons que nous sommes des femmes, et en plus que nous sommes des femmes qui luttent. Donc nous sommes différentes, mais nous sommes pareilles. Et bien qu'il y ait des femmes qui luttent et qui ne sont pas là, nous pensons aussi à elles, même si nous ne les voyons pas. Et nous savons aussi qu'il y a des femmes qui ne luttent pas, qui se contentent de ce qu'il y a, en d'autres termes, qui se défilent. Et donc, dans le monde entier, nous pouvons dire qu'il y a des femmes, une forêt de femmes, et que ce qui les rend semblables, c'est qu'elles sont femmes. Mais nous, femmes zapatistes, nous voyons autre chose qui est en train de se passer. Ce qui nous rend égales, c'est aussi la violence et la mort qu'ils nous font subir. C'est comme ça que nous voyons la modernité de ce sale système capitaliste. Nous voyons qu'il a transformé toutes les femmes du monde en une forêt, à cause de sa violence et de sa mort, qui ont le visage, le corps et la tête idiote du patriarcat. Donc nous vous disons que nous vous invitons pour que l'on se parle, que l'on s'écoute, que l'on se regarde, que l'on se célèbre. Nous avons pensé que ça devait être juste entre femmes pour pouvoir parler, écouter, regarder, fêter sans le regard des hommes, et peu importe que ce soit de bons hommes ou de mauvais hommes. L'important, c'est que nous sommes des femmes et nous sommes des femmes qui luttent, c'est-à-dire que nous ne nous contentons pas de ce qui se passe. Et chacune, selon ses manières de faire, son temps, son lieu, lutte, c'est-à-dire qu'elle se rebelle, qu'elle se met en colère, qu'elle fait quelque chose. Donc nous vous disons, sœurs et camarades, que l'on peut sélectionner ce que l'on va faire lors de cette rencontre. C'est-à-dire que nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir d'être en concurrence pour voir qui est la meilleure, qui a les meilleures paroles, qui est la plus révolutionnaire, qui est celle qui pense le mieux, la plus radicale, celle qui se porte le mieux, qui est la plus libérée, la plus jolie, qui danse le mieux, qui peint le mieux, qui chante le mieux, qui est la plus femme, qui gagne au sport, qui lutte le plus. De toute façon, il n'y aura pas d'homme pour dire qui gagne et qui perd, seulement nous. Ou bien nous pouvons écouter et parler de manière respectueuse en tant que femmes en lutte que nous sommes. Nous pouvons nous offrir des danses, de la musique, des vidéos, des peintures, de la poésie, du théâtre, de la sculpture, des jeux, de la connaissance, et aussi alimenter nos luttes, celles que chacune d'entre nous vit de là où elle se trouve. Nous pouvons donc choisir, sœurs et camarades, où on se met en compétition entre nous et à la fin de la rencontre, en rentrant dans nos mondes, on se rendra compte que personne n'a gagné. Où on se met d'accord pour lutter ensemble, aussi différentes que l'on soit, contre le système capitaliste patriarcal qui est celui qui nous violente et nous assassine. Ici, l'âge n'est pas important. peu importe que vous soyez marié, célibataire, veuve ou divorcé, que vous soyez de la ville ou de la campagne, que vous fassiez partie d'un parti politique, que vous soyez lesbienne ou asexuelle ou transgenre, ou peu importe comment vous vous définissez, peu importe que vous ayez fait des études, que vous soyez féministe ou non. Je vais arrêter là. Mais je trouvais que ce discours, du coup, donc, qui est de leur première rencontre, elles en ont fait une autre après, il me semble, après la pandémie, du coup, sur leur terre où elles invitaient les personnes qui se reconnaissent comme femmes du monde entier de venir se joindre à cette réunion. Je trouve que ce texte représente beaucoup cette volonté justement d'être ensemble, mais à partir de la différence et à partir de nos réalités situées.
Alors, moi, quand j'ai lu, en fait, ce texte, ce que j'aime beaucoup, c'est que au début, la personne, du coup, qui le déclare aux yeux de toutes, elle dit que, voilà, ça a été écrit avec toutes et entre toutes. Et elle parle aussi, en fait, de son expérience. De comment la lutte a commencé dès les années 94 au premier soulèvement zapatiste ça m'a beaucoup il y a beaucoup de sentiments en fait dans ce discours et celui que je trouve le plus beau c'est vraiment le sentiment de puissance. Et la puissance collective, je pense que c'est un peu ça qu'on recherche. Parce que quand tu dis qu'elle lutte pour la liberté et pour la vie, je ne peux qu'être d'accord parce que tout le monde, je pense, j'espère, tout le monde veut vivre de manière décente. Et je pense que cette dignité-là qu'on recherche tous, toutes dans notre existence, n'est pas en fait à quémander. J'aimerais continuer en fait du coup après ce texte très puissant, très politique aussi, avec une troisième partie aussi pour finir la discussion sur le sacré, donc corporalité, territorialité, mais aussi spiritualité. Et il y a un article de un passage de livre de Julieta Paredes, féministe décoloniale et artiste Amara, peuple qu'on trouve en Bolivie, Chili, Argentine. Elle dit dans Il hondo fino del de el feminismo comunitario. La traduction, c'est depuis un féministe, c'est ça ? Voilà, depuis un féministe communautaire. Nous, femmes féministes communautaires, nous sommes radicales, car à la racine de nos luttes, nous disons, il n'y a pas de révolution tant que nos corps de femmes continuent d'être la colonie des hommes, des gouvernements et des États. Il n'y a pas de révolution quand les décisions concernant nos corps sont prises par les hommes, les prêtres, les juges, les maris et les pères. Nous, les femmes, sommes à moitié de chaque village, une moitié qui prend soin, élève, protège et donne naissance à l'autre moitié qui sont les hommes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'après, dans le livre, dans le passage aussi Elina note dans le recueil, elle parle beaucoup, je ne sais pas si je vais réussir à le dire,
tu veux dire
empoder...
Non.
Oui.
Empoderamiento.
Voilà. Le R en espagnol, non, c'était trop dur pour moi. Voilà, et en français, la traduction, c'est autonomie.
Impuissantement.
Ah oui.
Mais aussi autonomisation, un truc comme ça. Ouais.
J'ai déjà entendu autonomie, mais il y a celle qui utilise impuissantement. rendre plus puissant, tu vois.
Bref, un terme qui est un peu difficile à traduire en français. En anglais, ça passe aussi, mais en français, c'est dur. Si vous avez des idées, on veut bien des propositions plus tard. Donc, autonomie du territoire, autonomie de ma terre, autonomie de mon corps, mais aussi autonomie de ma sexualité et du rapport au sacré. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que après elle parle du coup du rapport qu'il y a aussi de sa propre liberté avec la religion. Et ça nous amène après dans d'autres textes que Elina met dans le recueil, qui parle en fait de ce monopole. De ces récits qu'on peut entendre du lien entre le père, du coup, tout sacré, et les femmes qui, dans les religions souvent monothéistes, ont été réduites voilà, à des rôles... Il y a un enfant ici, je ne peux pas trop dire des choses, mais... à des rôles, comment dire...
Compliqués.
Compliqué.
Des dominations.
Voilà, et qui était souvent discrédité à travers ces rôles-là, soit la mère, soit la péripatéticienne. Voilà, et j'avais envie de te demander, toi, qu'est-ce que, en fait, cette sacralisation là, cette resacralisation des textes, des chants et des pratiques spirituelles en Amérique latine, t'a apporté en fait dans ta conception personnelle du sacré en tant que voilà femme qui a grandi en France.
Ben, je pense que d'abord un des apports que ça a eu pour moi, c'est le fait de ne pas automatiquement associer spiritualité à religion, ce que je trouve assez courant, en tout cas dans mon univers en France. Quand on parle de spiritualité, moi, je pense à la religion. Et de me retrouver dans des univers où la spiritualité, la spiritualité, c'est d'abord et surtout redonner du sacré à des espaces qui ont été dépourvus. Et donc redonner du sacré à ce qui est vivant, redonner du sacré à la vie, et d'abord la considérer comme vivante. Y a, dans certains des textes, on comprend qu'il y a quelque chose qu'on a complètement bâché avec ce rationalisme dualiste qu'on applique à tout, humain, nature, homme, femme, où tout est tranché en deux catégories. Et en fait, on a bâché, on a déprécié tout un ensemble de savoirs qui est lié aussi à ce lien qui existait depuis des millénaires et qui continue d'exister, heureusement, entre entités biophysiques, humains, animaux, monde spirituel, monde ancestraux, et qui font partie de la dignité, d'ailleurs, que revendiquent beaucoup de femmes, de pouvoir, beaucoup de femmes et beaucoup de peuples, d'ailleurs, de pouvoir... réaccéder à ces espaces et pouvoir vivre leur spiritualité et vivre ce rapport-là au monde. Donc il y a d'abord dans cette partie-là, c'est ce que je voulais exprimer, c'est cet apport à la lutte, que d'ailleurs j'aimerais exprimer plus par œuvrer pour plutôt que lutter contre. Je pense que c'est dans le fait de pouvoir remettre du sacré dans les choses et de pouvoir se les réapproprier comme ça, et de la magie qui est en soi une puissance d'agir et avant tout. Et d'ailleurs, après, Arisa, tu pourras parler de ta performance.
Ouais, je pense que c'est plus de trucs.
Il y a un énorme empoderamiento, il y a beaucoup de puissance d'agir qui existe là-dedans. Et je pense que c'est très important, justement, à mon échelle personnelle, ça m'a fait sortir d'un féminisme qui était très en colère, et juste en colère, c'est très bien d'être en colère, mais qui était juste en colère et qui se sentait bloqué dans cet espace de colère, à avoir la sensation de pouvoir transformer les choses, agir dans ce changement de conception. Et il y a aussi une part qui n'est pas toute cette spiritualité, bien évidemment, mais qui une part de cette spiritualité dont j'ai mis un des textes dans le livre, qui est un collectif qui va dans des communautés et qui travaille sur en particulier sur le sang menstruel et sur la gynécologie avec les plantes, etc. Et donc je tiens à préciser, quand je parle de ça, que la féminité ne se réduit pas à des organes biologiques féminins, mais il y a toute une partie de ce rapport à notre sexualité et à la gynécologie et à la menstruation qui a été complètement dépréciée, dévalorisée, et qui, je pense, est très important de revaloriser aussi, tout comme le rapport au corps dissident de façon générale. Et ça aussi, c'est au travers du sacré. Je trouve ça hyper intéressant, la façon dont on peut se réapproprier son corps et se réapproprier son rapport au monde au travers de ça. Et je pense que c'est génial que je te laisse juste parler, parce que tu es la meilleure placée pour...
Bon, je vais essayer de résumer, parce que je n'ai pas envie de prendre trop la parole. Je viens d'arriver en France. Mon français, il est pénible. Mais en fait, déjà, je vais parler un peu sur ma recherche pour expliquer pourquoi je fais la performance. J'ai fait une thèse auquel je raconte l'histoire des chasses aux femmes, depuis les Moyen Âge, la chasse aux sorcières, jusqu'à la chasse aux femmes pour esclavagiser. Et lorsque j'étais en train de penser les chapitres de Vénus, parce qu'en fait, j'utilise la figure de Vénus, la déesse romaine, gréco-romaine, quand j'étais en train d'écrire les chapitres sous les Vénus colonisées, les Vénus coloniales, j'étais en mélange de colère, tristesse, je pleurais beaucoup. Et je me suis dit, mais il faut pas arrêter juste avec un texte académique, parce que bien sûr, il a les archives, il a les preuves d'un système... des racines patriarcales, mais qu'aujourd'hui on connaît bien comme capitaliste moderne colonial. Et je pourrais pas être neutre sous les textes de ma thèse. Je pourrais pas me dire, ah ouais, je vais finir presque 1000 ans de domination sans proposer une réponse. C'est un peu compliqué, non? Et j'étais vraiment j'étais vraiment triste de penser qu'en fait, la domination, elle était toujours là. Bref, et voilà, depuis 2010 que j'ai fait cette performance, et puis j'ai décidé de rajouter à la thèse comme une espèce d'expression de guérison et de défense. Parce que c'est compliqué de résumer en combat, mais voilà, je pense que... la modernité, elle n'est pas méchante ou bonne, mais la modernité, elle a créé une chose qui s'appelle déshumanisation. L'effet d'être ignoré parce que ta couleur, ta race ou ton genre fait que ça produit une blessure, un trauma, si vous voulez. Et donc, quand j'ai commencé la performance des bains, j'ai commencé comme une initiative très, très, très simple, parce qu'en fait, je crois que tout le monde ici prend une douche au moins une fois par jour ou une fois chaque 2 jours pendant l'hiver. Et c'était là... Et que c'est une pratique, n'est-ce pas? Et en même temps, j'ai pensé aussi... et là, on revient sur la question du sacré, qui est dans les cultures amérindiennes, dans les cultures africaines et même dans la religion catholique, partout dans toutes les cultures, il y a de l'ablution, il y a des bains qui sont liés au baptême. Moi, je viens d'une culture on dit rezaderas, des femmes qui font la prière. Et donc, moi, que j'ai grandi en philosophie, j'ai vu la possibilité de rajouter une défense, une guérison effectivement possible à partir de cette influence. Et en même temps, c'est toujours ambivalent. Je sais que c'est dur de parler de choses qui sont ambivalentes dans une culture qui est très, très, très habituée à une définition, c'est ça, une autre définition, c'est ça, et on ne mélange pas. Et en fait, en Amérique, on mélange. Donc, c'est là que c'est compliqué de parler du sacré quand, en fait, nous, on parle des politiques dans les sacrés. Et la politique... mais après, on peut revenir à partir du mot « ethos ». En grec, « ethos », éthique, et posture, étiquette, et comportement. Et c'est aussi une manière de s'y poser au monde. Et donc, les bains, en fait, il est surgi de cette envie de... Désolée, la petite... Quand une femme vit une situation qui n'est pas censée vivre et qu'elle est trop mal à l'aise, les bains, ça peut donner une certaine guérison immédiate. Mais elle peut aussi s'y baigner pour s'y défendre, sachant qu'elle peut peut-être voir un patron qui la touche trop. Enfin, et donc, l'idée, c'est vraiment de penser ces types d'occasions qui sont immédiates, qui sont dans les quotidiens. J'ai dit ça parce que je viens d'un pays qui est les pays qui plus tuent les femmes, les trans, les militants de l'environnement. Enfin, je pense que j'essaie d'expliquer un peu mes motivations personnelles, mais pour donner un autre exemple lié au sacré, et là, j'ai pris une broderie. Dans la colonisation, il y a eu l'esclavage et les personnes esclavagisées arrivaient dans l'Amérique sans savoir sa famille, ses parents. Et les cultures sacrées qui arrivent d'Afrique, par exemple, je vais parler du Brésil, mais il y a Haïti, il y a Cuba, il y a aussi en Argentine. Oui. Très récemment, je l'ai découvert, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et dans la colonisation, pendant l'esclavage, les personnes n'avaient pas des pères ni des mères. Ils ont trouvé dans les sacrés une manière de retrouver sa parentalité. Et donc, il y a des cultures qui sont considérées comme religion, mais aussi, moi, je ne suis pas initiée, et donc c'est une spiritualité. Des divinités, on parle des orishas. Et cette divinité s'appelle Iemanjá. C'est la mère de tous les poissons et de tous les humains. Donc déjà, c'est interespèce. Il n'y a pas séparation entre nature et culture. Et au fur et à mesure que la colonisation empêchait d'avoir des familles, les personnes ont commencé à créer une culture de je suis fille des Iemanjá, je suis fille des Xangô, qui sont les dieux de la justice. Ça, c'est une cosmogonie telle que les Grecs, les Romains, mais c'est appliqué sous les quotidiens. Et donc, une personne qui était déshumanisée vis-à-vis de l'institution impériale et puis vis-à-vis de l'institution État, elle a trouvé son mode d'être, son mode d'existence, de la manière spirituelle. Et donc, pour donner un exemple, parce que presque, je ne peux pas dire, mais presque toutes les figures divines sont caractérisées avec un miroir et les visages cachés. Et différent de la tradition narcissique occidentale, les miroirs, c'est une façon de se reconnaître en tant qu'humain. Et les visages cachés, c'est une façon de cacher la individualité, c'est-à-dire c'est comme si l'universel peut être multiple et les multiples peuvent être aussi personnels, individuels, singuliers. Et voilà que les 2 février, c'est l'anniversaire d'Iemanjá, en fait. Et d'ailleurs, à Marseille, j'ai fait 2 éditions de la fête d'Iemanjá. J'ai fait. Et là, on fait des offrandes et on ouvre aussi des bains. Parce que comme elle est liée à l'eau, à la mer, forcément, on va s'y baigner avec des herbes ou de fleurs qui sont... Parce que les plantes peuvent invoquer aussi une certaine énergie. Les termes en Yoruba, Yoruba, c'est un dialecte de Nigeria, Bénin et aussi Guinée-Bissau, je pense qu'ils s'y parlent Yoruba. Les termes, c'est Aché. Aché, la traduction, c'est force vitale et qu'on peut dire empoderamiento, rendre puissant. Mais voilà, je pense que c'est compliqué aussi d'expliquer, de contextualiser une croyance qui, en fait, c'est très vivante, quand en fait tu as peur des sorties et vivre une situation immédiate de violence. Par contre, aujourd'hui au Brésil, on est en train de, heureusement, Lula a gagné l'élection, on est en train de reformuler l'État, reformuler les institutions selon ces cosmogonies-là. Juste pour donner un autre exemple, il y a plusieurs députés autochtones en ce moment et qui font des rituels pendant la séance de l'Assemblée, tu vois. Donc, c'est cette prise de pouvoir qui m'intéresse. Et quand on parle d'Iemanjá, par exemple, on parle des droits de la maternité. Donc, on pourrait même dire la question de l'accouchement humanisé. Et j'essaie de juste dire que, en fait, c'est pas parce que c'est sacré qu'il n'aura pas une conscience. Parce qu'en fait, j'essaie d'éviter la superstition qui peut. En fait, partout, il y a du charlatanisme. C'est vrai. Mais la reprise de sacré, elle est très intéressante au sens de retrouver son humanité perdue. Parce que, par exemple, moi, je ne sais pas quels sont mes ancêtres. J'ai perdu jusqu'à ma arrière-grand-mère. Et je sais que le grand-père de ma grand-mère était esclavagisé. Du coup, on perd les ancêtres. Et Iemanjá, elle devient une ancestrale directe. C'est quand même une des manières qu'on peut dire sous la reprise du sacré dans la vie quotidienne.
Alors moi, ce sera un peu une espèce de commentaire, question-commentaire. Parce que avec la question de... Enfin, moi, en tant qu'Africaine, qui, comme beaucoup d'Africains, très, très loin de son africanité, par rapport aussi, comme Raïsa, à la situation coloniale, une des choses qui m'a beaucoup marquée ici, c'est en fait la vision de ce que c'est que l'héritage. C'est comme si l'héritage, entre guillemets, il s'arrêtait, à part quand il y a un héritage économique. Voilà, c'est... Voilà. Mais ça, c'est vrai. Mais quand l'héritage n'est pas économique, c'est comme si ça s'arrêtait aux grands-parents. Donc, tout ce qui vient avant, qu'est-ce que c'est ? On n'en sait trop rien, c'est juste comme ça. Et par exemple, quand je dis chez nous, c'est pas que au Cameroun, c'est pas que dans les deux peuples de mes parents. Je pense que ça, c'est aussi une règle qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est que un ancêtre, c'est pas seulement en fait celui qui a ton sang, dans le sens où c'est pas seulement celui qui est de ta lignée, c'est aussi celui qui t'a inspiré en fait, celui qui va inspirer les autres à toujours aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que aller plus loin ? Là, je pourrais le dire de manière directe, c'est voilà, lutter pour la vie et pour la liberté. Et je pense que quand on dit ça, on se comprend. Et quelque chose qui m'a fait rire, mais en même temps être un peu frustrée, c'est que lorsqu'on parle ici de tradition, d'héritage ancestral, on sent toujours une distance. Moi, je suis danseuse aussi, je ne l'ai pas précisé. Voilà. Et les maintes fois où je suis allée à des bals occitans, surtout, parce que bon, là, on est à Toulouse, et que même si les gens sont très heureux d'être là, ah oui, mais tu vois le folklore. Je dis là, mais attends, pause. C'est ton héritage. Pourquoi tu parles de folklore ? Oui, mais tu vois, on est juste là pour s'amuser. Non, parce que si tu ne te rends pas compte que cette civilisation occidentale dont on parle depuis des siècles, c'est une création. C'est une création à partir vraiment des cendres de l'Europe et des cendres en fait, des autres continents. C'est une civilisation qui prend à toutes les cultures, à tous les peuples et qui dépose ça devant nous en mode « on a créé ». Et je trouve qu'en France, plus particulièrement, du coup, il n'y a pas ce lien-là. Et quand on parle de famille, d'héritage, on ne parle pas de quelque chose qui ne peut pas être brisé ou rejeté. Hein. On a toujours le choix. Et l'ancestralité, c'est quelque chose qu'on choisit d'abord. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Et c'est vrai que, voilà, par rapport à ça, quand on ne peut pas parler d'ancestralité, quand on ne peut pas parler d'héritage, c'est difficile aussi de parler de spiritualité. Parce que si en tant qu'être humain, ce qui est transmis, c'est seulement au niveau peut-être que ce soit de la vie quotidienne, de la politesse, comment dire bonjour, comment accueillir quelqu'un, ou bien l'héritage financier, comment on fait pour vivre avec les autres ? Qu'est-ce que je connais en fait de l'histoire de la France, vraiment ? Le Languedoc, ça existe, la langue bretonne existe, l'occitan, ça existe. Ça fait partie de moi. Et c'est vrai que moi, c'est une question voilà, qui me fait rire, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici, en fait ? Et en même temps, ça me rend triste, parce que devant moi, voilà, les réactions, comment dire, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est une grande fracture. Parce que quand tu n'as pas choisi, en fait, ton histoire, tout ce qui te reste à faire, c'est bah, de l'arracher, en fait. Donc voilà.
Après, si j'ai bien compris, il y a aussi la question de rendre vivants les héritages. Parce que si la modernité et la industrialisation a permis tout améliorer la vie au sens technologique, il y a eu aussi cette rupture avec les traditions. Après, je pense que décoloniser l'Europe, c'est aussi tout à fait... Et même la question de la langue bretonne, la question de la langue ici, elle a fait partie de ça, de rendre vivant la culture qui... En fait, ce qu'on lutte en Amérique latine ou ici, c'est d'arrêter de marchandiser nous-mêmes. Et si on parle d'occitan ou si on parle de criollo en Amérique latine ou si on parle de voilà des langues, c'est pour rendre vivant une conscience. Mmh. En tout cas, c'est pour rebondir à ce que je pense. Pourquoi c'est compliqué de aussi assumer que nous-mêmes, et là je m'inclus aussi, c'est compliqué de nous assumer aussi dans ces traditions. Quoi.
Oui, je pense que du coup, on peut commencer à ouvrir la parole si vous avez des questions, des commentaires. N'ayez pas honte, franchement. Moi, je peux tout entendre. T'as du brava. Elina aussi, Raïsa aussi. Je sais que j'ai vu quelques regards un peu interloqués. Et franchement, allez-y, dites. Enfin, on est là pour s'exprimer, c'est... même si on n'est pas d'accord. Peu importe. On est d'abord là pour s'exprimer, donc voilà.
Oh my God. Moi,
par rapport à ce que vous disiez, par rapport au rêve, j'arrivais pas à voir qui parlait. Ouais, mais je trouve ça très intéressant, la question des rêves, dans genre une autre perception des rêves. Qu'est-ce que ça peut signifier pour d'autres communautés ? Parce que c'est vrai qu'en Occident, on croit avoir tout défini et tout compris. Cette question de définition, de dire ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Et on ne laisse pas cette liberté pour nous questionner, pour dire... Attends, mais où est vraiment la limite entre ces concepts-là et cet autre ? Et du coup, je ne sais pas si vous pourriez un peu plus développer sur cette question des rêves. Ça m'intéresse beaucoup.
À nouveau, on va partir d'une perception amérindienne. Je peux donner des exemples plus objectifs, mais juste pour dire, dans la perception amérindienne, l'homme... Enfin, l'humain, il ne se sépare pas de sa connexion avec la nature. La rivière est en entité spirituelle, les montagnes, les animaux. Et donc, les rêves, c'est l'espace auquel on peut changer de corps. On peut rêver qu'on est un oiseau, par exemple. Évidemment, il y a des rituels qui s'utilisent de certaines substances pour accéder à un certain état de conscience auquel ça, c'est plus possible. mais pas que seulement dans les rituels, parce que les rêves, c'est l'espace de liberté qui en peut être d'autres choses qui n'ont seulement ces corps-là. C'est compliqué si on parle d'une racine cartésienne qui dit « je pense donc je suis » et « si je ne suis pas un oiseau, même que je rêve que je suis un oiseau ». Donc, c'est un peu là-dessus. Mais pour donner une situation, je peux indiquer les livres de Bruce Orbert et David Kopenhauer, « La chute du ciel ». Et lui, il est militant aussi. Donc, dans les livres, il y parle de sa lutte pour défendre les peuples Yanomami, en même temps qu'il y parle de rituels des rêves, auxquels voilà, il accède à des états qu'il peut voler comme un oiseau ou qu'il peut être même un jaguar. Ah, comment on dit jaguar ? Jaguar ?
Jaguar, c'est ça. Je ne sais pas si je peux aussi un peu essayer de répondre à ta question. Et là, je vais essayer de plus parler en fait de comment le monothéisme en Occident a réduit vraiment le champ des réalités, parce que ça aussi, hein. Parce que quand on parle de cosmogonie, c'est vraiment quand on te dit que l'univers est infini, c'est qu'il est infini dans le sens où ton esprit, ton cœur, souvent c'est ça. Esprit, cœur et corps sont quelque chose qui, bien sûr, font partie de toi, mais qui aussi ne t'appartiennent pas. Je veux dire, si notre corps, notre esprit et notre cœur nous appartenaient vraiment, enfin, je pense qu'on ferait d'autres choses vraiment plus puissantes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, on en parlait tout à l'heure, la civilisation pardon, occidentale a beaucoup pris au peuple gréco-romain, mais c'était des peuples très spirituels, très religieux. Du coup, quand on parle par exemple de psychologie, on parle d'abord d'esprit. Sauf que dans un territoire où on ne croit pas vraiment à la spiritualité, où la spiritualité est vraiment repoussée au sentimentalisme, superstition, tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un peu un problème dans les termes. Parce que si on parle même de dualité, corps-esprit, finalement, l'esprit, vous le mettez où ? Si vous le mettez seulement dans tout ce qui est, analyse du langage qui parle, l'esprit, qu'est-ce que c'est ? Ah, on peut se poser la question jusqu'à la fin des temps, on ne va pas y répondre. Et je trouve que ça, c'est aussi un des murs, en fait, que la civilisation occidentale s'est mise en fait face à elle-même à travers aussi du coup la religion catholique, parce que quand on parle de Dieu ici on pense directement au Dieu catholique, au Dieu chrétien, alors que il y a des milliers de manières de dire Dieu en fait. Et par exemple, moi, du côté de ma mère, on vient de l'Empire Congo. Et nous, on dit Zambé Apungu. Et Apungu, en fait, c'est pour dire l'être suprême, entre guillemets, la mère. Parce que symboliquement, effectivement, ce sont en fait les mères qui enfantent. Voilà. Du coup, moi, je trouve que cette fracture-là, elle est très prenante parce qu'elle empêche en fait, de penser l'esprit et mais, du coup aussi de penser la spiritualité et la vie d'autres manières. Parce qu'il y a des milliers de manières, il y a des manières infinies en fait, de penser du coup, les rêves, de les analyser et surtout de voir ce qu'ils apportent dans notre monde, en fait, ou dans notre puissance d'agir.
Oui, je pense que cette question du monothéisme, de cette dualité-là, de corps-esprit, on a essayé d'effacer le catholicisme genre à l'heure actuelle, mais c'est devenu plutôt du nihilisme, genre vidé de sens, de sacré, tout ce qui est quotidien. Et du coup, je trouvais ça très, très pertinent de parler justement de cette partie sacrée du quotidien.
C'est bien de mentionner que les nihilismes ont des effets quand on voit l'état d'apocalypse. Enfin, la fin du monde, normalement, les gens disent « Ah, mais pourquoi tu... Bon, mais si, ça y est, si c'est la fin du monde, pourquoi on va penser ?» Et en fait, rêver dans les deux sens, utopique ou rêver, avoir un rêve, fait partie aussi d'une résistance subjective, dans les sens d'imaginer. Faire imaginer, c'est aussi un acte de résistance. Je pense toujours à mon frère. Mon frère est militant de gauche, hyper straight, tu vois. Et lui, quand je parlais des bains, lui, il était, oui, Raïsa, les bains. Mais pendant la pandémie, il a accepté un bain. Je lui donnais une bouteille de bain. Mais tu vois, c'est ça une manière aussi de... Même avec les gens de gauche, tu vois, les matérialismes historiques durs, on peut aussi accéder à des espaces pour... C'est pas des convaincre, mais juste dire, écoute, tu as un corps aussi.
C'est ça.
Tu vois.
Le marxiste...
C'est ça, orthodoxe.
On m'a demandé de me taire, je me tais.
C'est elle, hein.
Oui.
Moi, je suis gentille. Moi, je veux des questions qui dérangent. Je veux la polémique.
Non.
Mais toi, tu as une question que tu peux poser.
Bonsoir. Bon, une question par Aline. Elina. Quelle est votre motivation pour faire le voyage, pour connaître ces histoires et ressembler à ce test? Où vous situez-vous dans ces déclarations des femmes latino-américaines?
Alors, en fait, je ne sais pas si c'était très clair au début, quand je l'ai expliqué, mais je n'ai pas décidé de faire le projet du livre puis partir dans différents espaces en Amérique latine. Juste mon parcours personnel a fait que j'ai passé une partie de mes études en Argentine et puis j'ai voyagé au Brésil et en Colombie. Et après, je suis partie au Mexique pour travailler dans un théâtre et après, j'y suis retournée pour m'installer dans une communauté. Et du coup, donc, c'était plus au fil de mes expériences et de mes échanges où je découvrais des réalités que j'avais envie de transmettre. Je découvrais des formes de lutte, je rencontrais des personnes. Et du coup, je m'y intéressais, donc je me suis mise à faire des recherches et petit à petit, les contacts. Donc, je rencontrais une personne et on parlait d'une autre et je voyais ce qui se passait dans une communauté, etc. D'ailleurs, je devais venir te voir au Brésil dans la communauté, je pense, avant la pandémie. Voilà, c'est comme ça que se sont fait les liens. Et comment je me positionne, moi, par rapport à ça je pense que l'ensemble des textes que j'ai choisi de réunir ici correspondent à... développent des idées qui résonnent avec moi, avec ce que je pense. Je pense que ça a beaucoup nourri mes réflexions, surtout. Moi, je le vois comme... moi, je me vois comme dans un rôle de... beaucoup de choses qui m'ont intéressée et de les transmettre plus que de me positionner, parce qu'en fait, même au sein des textes, il y en a qui parlent de choses très variées, très diverses, et je pense, y compris qu'il y a certaines autrices qui sont très associées et qui étaient très heureuses dans le même recueil, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément dans les mêmes espaces de lutte et qui sont dans des espaces très divers. Et moi, par rapport à ça... moi, je ne vis pas en Amérique latine comme une latino. Quand j'y suis, je reste une femme blanche, cisgenre, hétéro, qui a grandi en Europe. Donc, moi, je pense que ce que ça m'a apporté, comme je me positionne, c'est des nouvelles formes d'analyse, des portes qui se sont ouvertes dans ma façon de concevoir le monde et de l'envisager. Peut-être plus grande appréhension à écouter au lieu de vouloir proclamer ce que je pensais savoir sur mon rapport à la lutte, au féminisme, etc. Cette perspective décoloniale et tout ce qu'elle implique que je pense hyper importante pour ne pas être, comme je disais tout à l'heure, dans un rôle d'oppression aussi. Et aussi, sur toute la dimension spirituelle, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a apporté beaucoup d'espoir et beaucoup de joie aussi que je ne ressentais pas forcément dans ces questions-là auparavant. Ouais, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça a ouvert beaucoup de portes. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Je peux te poser une question, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a les problèmes de l'appropriation culturelle. Et du coup, étant femme française, en fait, je pense que tu proposes ces livres pour les publics français. Donc, tu as quand même ta place des paroles. Mais est-ce que tu pourrais aussi parler comment tu te sens en parlant du mouvement des luttes en Amérique latine, sans forcément la question de l'appropriation culturelle.
C'est-à-dire comment je m'y...
Comment tu te places? Par exemple, si je suis une personne chiante qui ne te connaît pas, il dit « Ah, tu fais l'appropriation culturelle !» Comment tu pourrais répondre? Voilà la polémique que tu voulais.
Ok.
Non, mais moi, je voulais avec le public.
Je pense qu'il y a, enfin comment dire, par rapport à cette question de l'appropriation culturelle, je pense que, au contraire, l'appropriation culturelle, c'est de parler à la place des autres et de se réapproprier leurs termes sans les avoir compris en profondeur. Je pense que, du moins j'espère, que dans cette idée-là, c'est plutôt reconnaître qu'il y a tout un discours universaliste que j'ai dû déconstruire et que je pense qu'on doit déconstruire. Et dans lequel il manque des voix, en fait, et juste de pouvoir les intégrer et les écouter. Et ça ne veut pas dire que les réalités qu'elles décrivent me correspondent. Moi, je peux traduire un texte et essayer de l'expliquer en français, mais c'est pour ça que tout à l'heure, on a lu un passage aussi, et c'est pour ça que j'ai retranscrit des textes au lieu de moi écrire un livre sur comment je pouvais expliquer. C'est pour ça que j'ai juste mis des textes à la suite et posez-moi qui j'étais et d'où ça venait l'intention dans mon introduction. Parce que ça me paraît la façon la plus juste. Et comme tu dis, la traduction, il y aura toujours une part de trahison, on va dire. Mais c'est pour moi la façon la plus juste de transmettre des voix. Et je pense qu'il y a un réel rôle dans la traduction qui est hyper intéressant à considérer dans cette question de passage des savoirs. Parce que historiquement, il y a vraiment un... Enfin, moi, je vois quand je parle avec mes amis au Mexique, dans leur programme d'histoire, ils n'apprennent pas l'histoire de leur pays avant la colonisation. Et par contre, ils savent me parler de Napoléon Bonaparte et de trucs que moi-même, je ne m'en rappelle pas. Voilà. Et du coup, je pense qu'il est grand temps... Il est grand temps qu'on apprenne aussi... Et pas dans un truc de culpabilisation, c'est pas ça. C'est juste qu'on apprenne aussi à écouter et à nourrir. C'est pas juste dire bon bah on bâche tout ce que nous on a construit, c'est de la merde. C'est pas du tout le cas, mais c'est dire on a des théories incroyables, des luttes incroyables, des mouvements incroyables, mais il manque des voix, et si on les considère pas, ben le discours il tient pas, en fait, parce que le système il est global et que tout ce qu'on fait ici a des conséquences aussi sur ce qui se passe dans d'autres pays. Et justement, quand on parlait tout à l'heure de l'extraction minière ou du rapport aux énergies ou sur plein de plans. Donc voilà, elle est là ma position, peut-être sur une plus grande conscience et aussi, sur, comme je disais tout à l'heure, sur ce rapport à l'espoir et à une certaine joie dans la lutte que je trouvais pas, en tout cas dans les cercles militants, dans la façon dont je m'étais construite mon féminisme auparavant. Voilà, je pense que...
Surtout parce qu'en fait, on parle aussi d'une rôle de savoir que potentiellement, on est des victimes, entre guillemets, mais en fait, on a envie aussi de cette joie qui est guérie de cette culture de victimisation. Donc, j'ai trouvé très intéressant dans les livres aussi cette posture. Mais bien sûr, depuis même les mouvements des suffragettes, si on voit jusqu'à la lutte pour les droits de vote, qu'on sort de cet état d'impuissance pour dire oui, on est victime, ouais, on est victime potentiellement, mais en fait, on a aussi une prise de conscience. Mmh. Et c'est pour ça que c'est pas une... On a les termes aussi extractivisme intellectuel.
Okay.
On a aussi et on fait l'alliance, en fait. Je pense que c'est là qui... Et deuxièmement, la question des frontières, c'est-à-dire traduire, c'est aussi faire la frontière. C'est aussi, et là c'est une notion de Gloria Anzaldúa, qui a écrit un livre qui s'appelle Borderland. Pour elle, l'identité en tant que mexicaine et en tant que personne qui vit aux États-Unis, fait qu'elle est en être en frontière tout le temps. Donc moi, qui ça fait 7 ans que je suis en France, quand je rentre au Brésil, les gens me disent que je suis gringa. Et ici, je suis brésilienne, tu vois. Et du coup, c'est être frontière fait quand même une solution, entre guillemets, de ce type de problèmes d'identité et des questionnements de l'autorité de la parole, je pense.
Ouais.
Voilà. Au Brésil, je suis quelqu'un très européen. Donc, au Brésil, j'écoute. Quand je suis dans les rituels des candomblés, je suis la personne qui écoute et qui est en train de faire les choses très doucement. En France, en fait, c'est très rare que je fasse la performance en France. Mais quand j'ai fait comme si c'était un parfum. Je passe, parce qu'en fait, c'est un rituel, enfin, c'est une performance publique. Et je fais les bains dans les gens et je demande, par exemple au Brésil, je demandais la fin du génocide noir au Brésil. Et en France, je demande la décolonisation aussi. Mais j'ai fait comme un bain, pour tester les parfums. Mais la dernière fois que j'ai fait en Europe, c'était au Pays Basque, dans un festival queer. Et il y avait 24 personnes non-binaires, femmes cis. Et on était à la rivière et on a fait un bain des fleurs rouges. Et c'était là que j'ai senti quelque chose qu'on peut appeler magie. Voilà. Mais c'était 24 personnes qui m'ont soutenue dans ce moment-là. Donc, mais je crois qu'en Europe, il y a des racines, il y a des héritages aussi. Hein. On n'oublie pas les Astérix Obélix. Devant les publics, j'ai une tendance à faire des blagues, mais au bar, on parle sérieusement.
Oui, c'est ça.
Eh bien, merci beaucoup de votre écoute et de votre présence, vraiment.
Merci.
C'était Rencontre avec Elina Fronti autour du livre qu'elle a dirigé, Vivante, des femmes qui luttent en Amérique latine, paru aux éditions Dehors.
Radio Livre Dormir.